RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Les derniers kilomètres de cette 11e étape du Tour de France, deuxième étape pyrénéenne, une étape qui aura accouché d'une souris, en tous les cas pour ce qui est du classement général, puisque Chris Froome n'a pas été attaqué ni dans Aspin, ni dans le Tourmalet, et qu'il ne devrait pas l'être non plus dans la côte de Cotteret, même s'il y a quand même un petit kilomètre qui pourrait permettre une attaque. Bon, enfin, on va pas lui reprendre 3 minutes ni même 30 secondes, hein, Cyril, ce serait quand même compliqué. C'est court, même si c'est assez raide par moment.
Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas persuadé que s'il y a des attaques, ce soit pour mettre en difficulté Chris Froome, mais bien plutôt pour essayer de conforter ou de revenir au classement général pour être dans le top 10, qui vous dit que Valverde n'a pas envie de reprendre du temps peut-être avant de garder Rennes, que Gesing n'a pas envie de sortir, que Nibali qui est à 6,57 n'a pas du tout envie de revenir sur Barguil et sur Gesing, donc il risque d'y avoir des offensives, mais plus dans l'optique d'un positionnement au classement général que pour mettre en difficulté Chris Froome. D'ailleurs, je pense qu'il ne doit pas y en avoir un qui pense que c'est possible.
Et on commence à se battre pour les miettes déjà, oui, alors qu'il reste encore 11 jours de course. Christopher Froome, qui, on le rappelle, ce matin au classement général, comptait 2 minutes 52 d'avance sur TJ Van Garderen. Et combien sur Nairo Quintana? Combien? 3 minutes 09 exactement. Christopher Froome qui semble avoir déjà la main mise sur ce Tour de France. Et c'est vrai que Valverde est quatrième. Valverde qui a jamais fait podium à l'arrivée du Tour de France, mais celui qui le devance au classement général, c'est bien son équipier Nairo Quintana, même si c'est vrai que les pentes de cette côte de Cotteret, en tout cas le final de la pente avec ses portions les plus pentues, conviendrait éventuellement à un démarrage d'Alejandro Valverde. On n'en est pas là pour l'instant. C'est Rafał Majka qui fait un solo en tête de la course à 6 km de l'arrivée. Il compte toujours 1 minute 20 d'avance sur un contre-attaquant, Serge Pauwels, et 6 minutes 30 sur le groupe maillot jaune.
Alors on le disait, arrivée un peu scabreuse tout à l'heure, notamment pour le groupe maillot jaune qui va peut-être se disputer non pas la victoire d'étape puisqu'elle va revenir à Majka, mais ils sont quand même nombreux, Cyril, dans le groupe maillot jaune. Il va peut-être y avoir des attaques, on le rappelle, c'est très dangereux. Ça n'a pas bougé, la physionomie est la même, on n'a pas changé la ligne d'arrivée.
Eh bien, je vérifie de visu. Non. Il y a bien le D'accord. virage qui commence exactement 60 cm après la ligne d'arrivée.
Ok, donc ce sera.
Ça fait court, 60 cm pour lever les bras, les remettre,
non,
freiner.
Non, 60 cm l'angle, au moment où on attaque l'angle. Mais sur les balustrades, il y a entre 10 au plus près et 11 mètres au plus loin.
Alors, gamelle ou pas gamelle, messieurs, tout à l'heure sur la ligne d'arrivée? Qu'est-ce que vous en dites?
À mon avis, les oreillettes dans ce type de circonstances vont être utiles. Rafał Majka n'aura pas à sprinter pour devancer qui que ce soit puisqu'il est en train, comme à Risoul et comme au Plat d'Adet l'an passé, il est en train de se diriger vers une victoire en solo. Derrière, à mon avis, les soigneurs et tous ceux qui précèdent l'arrivée des coureurs ont tenu les directeurs sportifs informés, les directeurs sportifs qui savent relayer ce type d'informations. On est dans des courses cyclistes, c'est leur métier, ils ont affaire à des impondérables tout au long de l'année.
D'accord, donc pour toi, tout va se passer normalement.
J'espère.
Ouais. Cyril, tu crois que ça va
J'espère. Je ne fais pas de pronostic, j'espère.
Je ne sais pas si Lucho a vu la configuration de la ligne d'arrivée, Lucho, avec ce virage très serré dès la ligne franchie.
Hein. De toute façon, oui, c'est sûr, mais il va falloir être bien placé pour gagner, mais de toute façon, il est tout seul devant, donc
non,
ça risque
pour
rien.
C'est pour éviter la gamelle.
Pour éviter la gamelle, ils vont pas arriver non plus à 60 à l'heure. Hein.
Ah, ils arrivent à plus de 40, c'est tout plat.
Ouais, mais bon, ils sont au courant de toute façon. Je pense que les soigneurs qui sont sur la ligne d'arrivée ont dû prévenir les directeurs sportifs qui ont prévenu leurs coureurs avec les oreillettes. Donc, il n'y aura pas de souci à l'arrivée.
Allez, on va retrouver Georges Quirino sur la moto RMC qui se trouve justement devant le groupe maillot jaune qui est à combien de kilomètres de l'arrivée maintenant, Georges? À 6 kilomètres environ, 6-7 kilomètres?
C'est ça, exactement, oui, dans la côte de Cotteret, juste derrière nous, le groupe maillot jaune emmené par Richie Porte, le maillot à poids qui est devant dans la roue. Il y a Geraint Thomas qui est là, le maillot jaune est en troisième position, Christopher Froome, Alejandro Valverde en quatrième position, Nairo Quintana avec son maillot blanc en cinquième position. Alors là, on est sur des pentes vraiment, vraiment différentes de ce que l'on a vu depuis le début de la journée à Aspin et sur le Tourmalet. Là, on est même sur une zone de replat. Christopher Froome qui regarde son pédalier comme il a l'habitude de le faire. Ils vont passer sur leur droite devant l'inscription sommet à 5 km et on voit Pierre Roland par exemple qui est placé en 6e, 7e position dans ce groupe. Alberto Contador dans sa roue, Vincenzo Nibali un peu plus loin dans ce groupe maillot jaune qui est vraiment là sur une zone de plat, presque de faux plat descendant dans cette ascension de la côte de Cotteret qui pour l'instant n'est qu'une côtelette par rapport à ce qu'ils ont vu depuis le début de la journée.
La côtelette de Cotteret, on la gardera celle-là, et si Georges avait osé, il nous aurait bien expliqué que Nairo Quintana est absolument dans la tranquillité aujourd'hui avec Valverde comme équipier devant lui et il me semble Gorka Izagirre dans sa roue, vraiment easy tous les prétendants au classement général. La montagne, la haute montagne a accouché d'une petite souris.
Ouais, ce qui serait bien, c'est qu'il sorte un peu de la tranquillité de notre ami Nairo Quintana. Ça nous arrange
demain
excitationnade, si tu veux.
Demain, quatre cols au menu, dont on le rappelle, la montée finale vers le plateau.
Oui,
de
mais ce sera là-dedans, évidemment que ça va jouer. Il y aura rien à attendre avant le plateau.
Alors, soit Froome assomme pour de bon le tour, soit Quintana se réveille et réveille tout le tour, parce que ce sera un regain d'espoir pour tous ceux qui espèrent que ce tour n'est pas terminé.
Et oui, ce Tour de France dont on se faisait un plaisir, on se disait ah là là, c'est le tour le plus excitant de ces 30 dernières années, un plateau de folie, un parcours extraordinaire, et paf, dès la première étape de montagne, boum,
c'est
dans
pas
les
fini,
dents.
C'est pas fini, ben, on en entend beaucoup.
Oui, je sais, toi, tu nous disais hier soir lors du repas que tu voyais Quintana remporter le Tour de France.
Oui, et c'était toujours sans alcool, complètement à jeun.
Même pas un demi, rien. Et
rien du tout. Quintana, pour moi, hier, oui, il a pris une minute dans les sacoches, mais il a montré qu'il était plus fort que Nibali, que beaucoup d'autres, que Contador. Et j'ai du mal à penser que Christopher Froome, pour qui tout roule comme sur des roulettes depuis le départ du Traire, pas une chute, pas une cassure, pas un équipier de perdu chez Sky, tout va pour le mieux. J'ai du mal à croire, malgré la logique des biorhythmes de Cyril Guimard qui nous explique que Chris Froome est dans une dynamique absolument
ça, moi, je suis déçu, quand
absolument
même
positive, sans mauvais jeu de mots. J'ai du mal à croire que Christopher Froome n'aura pas un pépin. Je ne lui souhaite pas le mal, mais Quintana est le meilleur derrière Froome, et tout peut arriver sur n'importe quelle route, que ce soit en France ou ailleurs.
Il aurait pu se passer quelque chose quand même dans le Tourmalet aujourd'hui, parce qu'il y avait moyen de faire la guerre quand même. Mais Christophe, lève pas les yeux au ciel en me regardant. Il y a moyen de faire la guerre aujourd'hui et demain.
Depuis des années, il se passe rien.
Mais le problème, c'est que les coureurs ont peur de prendre
des
risques.
Tu parles du tour des années 90, où il pouvait se passer des trucs.
Les coureurs,
ça fait 20 ans qu'il ne se passe jamais rien.
Je suis d'accord avec toi.
Les cols sont situés à 30 km de l'arrivée.
Je dis, les coureurs aujourd'hui ont peur de prendre des risques en partant de loin. Mais le problème, c'est que si tu veux déjouer tous les pronostics et mettre à mal Froome et ses équipiers, parce que plus tu vas garder les équipiers avec Froome, et plus tu seras en danger de pas gagner le tour. Et c'est le cas de Quintana. Aujourd'hui, ils auraient très bien pu, avec Valverde et Quintana, sans faire jouer leurs équipiers au pied du Tourmalet, d'attaquer au pied du Tourmalet. Voilà. Ça, c'est clair et net. Il y avait les moyens aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose sur un terrain de jeu quand même qui est grandiose,
oui,
le Tourmalet.
Sauf qu'il reste 10 étapes et qu'on ne se sacrifie pas si loin.
On attend.
Parce qu'il y a trois minutes
à reprendre quand même, Quintana.
Mais tu crois
que
tu les aurais repris dans le Tourmalet?
Mais c'est pas les reprendre. Déjà, si tu reprends 30 secondes aujourd'hui,
mais tu reprends rien du tout.
Qu'est-ce que tu en sais si tu tentes pas le coup?
Lucho l'aurait fait.
Je suis désolé. Bah alors voilà, on va attendre le dernier col à chaque fois.
Cyril, réponds à cette question.
Cyril est
tranche.
Mais Cyril, il serait passé à l'offensive. Combien de fois Cyril a fait attaquer son équipe dans des ravitaillements avant les quoi? Je me rappelle. rappelle. Oh, oh, oh. Ne dis pas non. Je m'en rappelle. Ouais, Dauphiné bien. Libéré en 91. Tu fais attaquer au pied, avant le pied du grand Colombier, ton équipe au ravitaillement. Tout le monde voulait s'abreuver tout. Et toi, tu fais une bordure, tu attaques au pied du grand Colombier. Attends, Cyril. Non, tu dis pas non. Non. T'as fait des stratégies comme ça.
Alors. Mais pour faire des stratégies comme ça, il faut que le terrain s'y prête.
Et mais s'y prête aujourd'hui, Cyril.
Non.
Mais si, t'as la descente.
Non.
Je veux dire Valverde et tout. Mais c'est non, un très
j'ai
bon
j'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu dans la descente du Tourmalet quelqu'un qui bascule seul en tête avec une minute et qui va au bout. Pour une raison très simple, c'est que t'as le début qui est très technique où tu peux effectivement éventuellement reprendre du temps. Mais ensuite, t'es sur une descente où t'es en prise. Et puis, si t'es quatrième du classement général, il y a le troisième qui va venir rouler avec le maillot jaune. Et puis, il y a le deuxième qui va venir rouler avec le maillot jaune et le troisième. Et tu vas avoir obligatoirement un groupe de coureurs qui va se mettre à rouler. Quand tu veux attaquer, il faut vraiment que le terrain s'y prête.
Je vais te poser une question. Admettons que Quintana attaque au pied du Tourmalet. Qui sait, Froome, si ça trouve, il est dans un mauvais jour, personne ne le sait, parce qu'il est derrière ses équipiers et tout, il passe l'école, c'est le grand confort, c'est sûr, mais bien sûr ils n'ont pas testé. Ça coûte quoi de tester Froome au pied du Tourmalet et de voir comment il est?
Ça coûte Cyril, d'exploser. Pas d'accord. Ça coûte d'exploser peut-être.
Alors, voilà.
Tu fais attaquer.
Rendez-vous aux Champs-Élysées. on va sauter toutes les étapes et puis on va arriver sur les.
Mais champs. Non, demain il y a direct. Le plateau de Baye. C'est là que ça.
Oui, mais il faut pas sûr. Faire la guerre qu'au plateau de Baye, Christophe, c'est toujours pareil.
Mais tu fais pas la guerre, mais il y a des trains qui sont menés par les équipiers.
Alors les trains, mais oui, mais c'est monotone.
Tu fatigues
quoi.
Tout le monde. Là, au moins, tu décroches par l'arrière.
Il y a des trains qui partent à l'heure.
C'est l'équipe Sky qui fait le tempo devant, et bien sûr, les plus faibles décrochent par l'arrière.
Hier, la Movistar a fait le train.
Oui, mais non, c'est la Sky qui a pris le relais. C'est la Sky qui a fait sauter les Movistar.
Ils sont plus forts. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Allez, nous sommes à 2,4 km de l'arrivée. On va se concentrer quand même parce que il y a quand même un bel exploit réalisé par Machka. Le Polonais de la formation Tinkoff Saxo qui va s'imposer, c'est pas son premier succès sur les routes du avance,
tour. Oui, le coéquipier de Contador qui cette fois a les coups des franches aujourd'hui, Contador a donné un bon de sortie à son équipier polonais de la Tinkoff. Comme l'an passé, Contador avait abandonné, ses équipiers avaient brillé avec deux victoires d'étape pour Machka et une pour Rogers. Cette année encore, une fois que Contador montre ses limites, c'était le cas hier dans la Pierre Saint-Martin, ses coéquipiers brillent dans la foulée. Rafał Majka qui passe à l'instant sous la banderole des 2 km de l'arrivée à Cotteret pour le Polonais qui compte 1,35 d'avance sur son poursuivant qui n'est plus Serge Powels le Belge mais bien Dan Martin l'Irlandais qui en termine avec la côte de Cotteret. Rafał Majka lui est sur des portions planes, il a course gagnée et près de 7 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune.
Au classement général, Majka il était où? Il a pris quelques éclats je crois depuis le début du tour, il est plus dans le coup, autrement on lui aurait pas laissé 7 minutes d'avance.
Alors Rafał Majka est à 51 minutes 03.
Effectivement, c'est plus un éclat,
il y a un beau matelas pour Froome, hein.
Voilà, évidemment. La moto RMC, Georges Quirino qui se trouve devant le groupe maillot jaune. Il se passe des choses ou non, Georges, dans ce groupe maillot jaune?
Eh ben on va voir parce que la route va s'élever un petit peu plus pour le dernier kilomètre de cette ascension, parce que le groupe maillot jaune va voir dans quelques instants la banderole indiquant les derniers kilomètres. Christophe, il y a beaucoup de monde là, hein, dans cette multitude de lacets jusqu'au sommet de cette côte de Cotteret. C'est assez impressionnant à voir. On en verra des plus beaux, des lacets du côté de Montvernier notamment dans les Alpes. Mais là, il y a beaucoup de monde agglutiné sur. On a l'impression de voir un mur de lacets devant nous. Voilà le groupe maillot jaune qui arrive sous nos yeux avec toujours Richie Porte qui emmène avec le maillot à poids en deuxième ou troisième position. Il y a le maillot jaune de Christopher Froome. Oh, ils sont pas tendus, ils sont pas en stress, nos amis de la formation Sky. On a vu il y a quelques instants Richie Porte tranquillement sortir un bidon et se déshydrater sans regarder derrière lui. Ah, il y a une attaque sur la gauche de la route. Il me semble que c'est un coureur de la formation Trek. Est-ce que ce n'est pas Bokke Mollema qui vient de déclencher une offensive à 1 km du sommet avec Robert Racing, qui a coureur de l'équipe Lotto Jumbo qui réagit derrière lui. On ne chasse pas du côté de Geraint Thomas, c'est Geraint Thomas qui est devant Christopher Froome. Il n'y a pas de grosse réaction, Mollema qui est parti, Racing derrière lui, et derrière les écarts ne sont pas très importants, mais allez, il y a une Il y a une petite offensive qui s'est lancée à 1 km de l'arrivée de ce sommet.
Alors que Richie Porte, lui, est en difficulté dans le groupe maillot jaune, non?
Oui, c'est l'équipier. C'est l'équipier
porteur du maillot à poids. Hein.
C'est l'équipier de Froome qui se gare après avoir fait l'effort. Richie Porte, qui avait terminé deuxième hier et qui ne rééditera pas sa performance du jour.
La flamme rouge pour Machka, qui va remporter l'étape dans un instant.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Voilà, le dernier kilomètre pour Rafał Machka. Dan Martin est parti en compte derrière, mais beaucoup trop tard. Hein.
Attention, Richie Porte est décroché dans le groupe maillot jaune, mais il n'est pas le seul. Il a le maillot de champion d'Italie, le Dossard 1 à l'arrière. C'est Vincenzo Nibali qui, comme hier dans la Pierre Saint-Martin, est en train de lâcher dans les derniers lacets de cette courte et pas vraiment difficile côte de Cauterets. Nibali qui paye le prix encore, qui paye les pots cassés, tandis que Bauke Mollema, le Hollandais de Trek, tente un baroud d'honneur, mais on ne joue pas pour la gagne. La gagne, elle est pour le Polonais de 25 ans, coureur de Tinkoff Saxo, Rafał Majka.
La moto RMC, Georges Quirino.
Oui, effectivement, avec Bauke Mollema derrière, et on voit...
Voilà, on va retrouver Georges dans quelques instants. Fred, que se passe-t-il en tête du groupe maillot jaune? Est-ce que d'autres attaques se sont produites?
Non, c'est Laurens Stendam, le coéquipier de Robert Gesink chez Lotto Jumbo, l'équipe hollandaise, qui prend la chasse à son compte. On se tire entre les pattes, entre Batave, les Néerlandais, avec Bauke Mollema qui sort, et Laurens Stendam qui roule derrière. Pendant ce temps-là, il y en a un qui n'en a cure de ces guerres fratricides entre Hollandais. Il s'appelle Rafał Majka et il a sorti une nouvelle fois la mitraillette aujourd'hui à 25 ans et demi. Le Polonais de la formation Tinkoff Saxo était membre d'une grosse échappée aujourd'hui via Aspin et Tourmalet, et il a profité du toit du tour, le Tourmalet, pour s'isoler à l'avant de la course. Il a terminé les 50 derniers kilomètres en solo. Rafał Majka qui peut montrer son maillot Tinkoff Saxo et lever le point droit et tourner à gauche sans aucun danger pour lui. Troisième victoire d'étape pour Rafał Majka. Il en avait remporté deux l'an passé. Rizul et Pladadet avaient endossé le maillot à poids de meilleur grimpeur du Tour 2014. Il remporte là une étape qui fera du bien à sa formation Tinkoff Saxo.
Très bien. Qui va terminer deuxième et qui va prendre des petites secondes à Chris Froome? Ce sera difficile. Dan Martin va terminer dans quelques instants à la deuxième place. Et puis ensuite, évidemment, le groupe maillot jaune. On rappelle que Nibali a été lâché de ce groupe maillot jaune il y a quelques instants, ainsi que Richie Porte.
Oui, Dan Martin, rescapé de l'échappée où figuraient notamment les Français Thomas Vauclair, Julien Simon ou Arnaud Démare. Dan Martin, déjà deuxième d'étape l'autre jour à Mur-de-Bretagne derrière Alexis Villermoz. Dan Martin, ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur d'une étape il y a deux ans sur le Tour à Bagnères-de-Bigorre, c'était déjà dans les Pyrénées. Dan Martin, coureur de l'équipe Cannondale-Garmin, qui prend la deuxième place à 59 secondes de Rafał Majka. On attend le reste des membres de l'échappée qui vont se succéder sur la ligne d'arrivée ici à Cauterets.
Voilà, Daniel Martin qui termine deuxième de l'étape et qui va prendre le prix de la combativité en Targaz aujourd'hui sur cette étape. La troisième place donc pour le champion d'Allemagne, Fred.
Oui, Buschmann, 22 ans, néo-professionnel de l'équipe Bora, qui prend la troisième place. Il se découvre et il se révèle aux yeux du grand public, lui qui porte le maillot de cette équipe allemande invitée par les organisateurs du Tour de France.
Alors que Bauke Mollema donne tout dans les derniers hectomètres de cette étape, il veut prendre du temps. Qu'est-ce qu'il veut faire, Bauke Mollema? Il y a deux ans, il jouait le général, il était bien placé.
Eh bien, Bauke Mollema, se livre à ce que nous expliquait Cyril, les etc., ceux qui veulent figurer au mieux dans le top 10. Bauke Mollema qui était 11e du général ce matin à 7 minutes 15 et qui devrait passer devant Vincenzo Nibali ce soir grâce à cette attaque conjuguée à la défaillance de Vincenzo Nibali il y a quelques instants. Mollema qui va intégrer le top 10. Warren Barguil va devoir s'affoler s'il veut garder sa 9e place parce que Mollema est toujours en train de faire un forcing dans les 3 derniers kilomètres de cette étape.
Warren Barguil qui a tout donné sur les routes de cette étape, lui qui, on vous le rappelle, avait chuté lourdement hier, avait réussi tout de même à terminer bien classé dans l'étape d'hier, qui a souffert aujourd'hui, Cyril, mais qui s'est accroché notamment dans la descente avec au prix de risques incroyables, insensés, mais qui a réussi à revenir dans le peloton maillot jaune et qui va franchir une journée de plus. Mais tu nous le disais hier, c'est souvent deux jours après que les bobos, les blessures se réveillent et font mal, hein.
Deux jours après, où ça fait le plus mal, mais ça tout le monde le sait, lorsqu'on tape, mais que ce soit le coureur cycliste ou monsieur tout le monde, les courbatures les plus importantes arrivent deux jours après. Il a réussi à passer aujourd'hui, ça a été difficile, il a fait une superbe descente, mais surtout techniquement une superbe descente. Sylvain a permis de revenir dans le groupe de tête, mais je ne suis pas certain qu'il y soit encore. Je ne sais pas si il n'a pas été décroché dans la côte à grand plateau de notre ami Lucho.
Dans la côte à grand plateau, on n'a pas vu s'ils avaient grand plateau. Thomas Meclerc va terminer dans quelques instants, Fred.
Oui, avec Julien Simon dans sa roue, le coureur de Cofidis, et il n'y aura pas sprint entre les deux Français qui font 4 et 5 aujourd'hui à Cotteret. Pas sprint parce que l'arrivée est vraiment dangereuse, et effectivement ils ont été informés par les oreillettes. Accélération de Tony Galopin sous la flamme rouge dans le groupe maillot jaune, le coureur français de l'équipe Lotto Soudal, qui est en train lui aussi d'aller grappiller des secondes, qui était à 4.33 au général derrière Christopher Froome, 7ème du général, devant lui Contador et 6ème à 4.04. Eh bien ça n'allait pas assez vite pour Galopin, qui est vraiment un coureur capable d'aller prendre du temps
Il faudra m'expliquer pourquoi Froome
fait rouler, quoi. Il veut tout gagner, il veut tout régenter, il peut bien lui laisser quelques secondes à notre Tony quand même.
Non,
pas possible.
Alors là on fait de la franchouillardise à outrance, c'est la course. Christopher Froome ne fait pas rouler Guérin Thomas.
T'as accéléré en plus.
Arrête.
Tu vois pas là. J'en conviens. Guérin Thomas qui emmène dans sa roue Christopher Froome, Alberto Contador, Tony Galopin, qui va voir son attaque se transformer en coup d'épée dans l'eau. Dommage pour le Français, messieurs.
Ah ouais, non, c'est vraiment dommage. Hein. Quand on vous dit que l'équipe Sky
se comporte
en impérialiste sur ce Tour de France, eh bien, on en a là.
Il a peut-être peur de
Galo. Il a peut-être peur de Galo. Il a laissé filer Bauke Mollema, qui est en train d'en terminer à un peu plus de 5 minutes du vainqueur du jour, Rafał Majka, mais il ne laisse pas filer Tony Galopin, qui est 7ème à 4.33. La marge de manœuvre de Christopher Froome ne lui semble pas assez confortable. On ne laisse pas filer Tony Galopin, c'est un signe. Ce coureur commence à compter parmi les grands.
Alors que Chris Froome sprint maintenant en tête du groupe maillot jaune, il veut aller gagner quelques secondes de plus. C'est vrai, il n'en a pas assez, Fred.
Avec Valverde, Valverde a pris une seconde, tout le monde passe malgré ce final très très tortueux. Tony Galopin a été rattrapé. Tony Galopin qui fait partie des satisfactions du jour, au même titre que Pierre Roland et Warren Barguil. On vous rappelle, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans le final, la détresse de Perrault.
Thomas Vauclair est au micro de Pierre-Yves Leroux.
Exactement, Thomas Vauclair qui est juste derrière la ligne d'arrivée et qui récupère tranquillement après cette belle étape. Évidemment, on va l'écouter, sa première réaction alors que Pierre Roland arrive également.
Je me satisfais pas de ça, mais bon, après, une fois que c'est perdu pour la victoire, et avec Julien Simon, on a décidé de se battre pour essayer d'aller chercher cette 5e place. Et puis voilà quoi, ouais, c'est pas une mauvaise note maintenant. J'ai déjà connu la victoire sur le tour, c'est ce que je recherchais aujourd'hui. Mais bon, force est de constater que je suis tombé sur bien plus fort que moi et j'ai eu un mauvais passage dans le Tourmalet. Je connais très bien ce col, mais des fois ça peut être un inconvénient, justement, tellement on le connaît quand on sait comment c'est dur vers la Mongie. Et puis bon, je me suis un peu énervé, j'ai perdu mon sang-froid, comment on me tapait dessus, on m'a arrosé partout. C'est vrai que je me suis énervé, j'ai gaspillé un peu d'efforts. Bon, je termine 5e, c'est pas extraordinaire, mais ça fait un bon petit bilan quand même. Les jambes sont correctes.
Ce matin, vous disiez en progrès, c'est la bonne conclusion, c'est toujours en progrès.
Ouais, c'est en progrès. Après, c'est vrai que aujourd'hui, on regarde le résultat final, mais si vous savez, je sais pas si l'étape était diffusée en intégralité, mais si vous aviez su la bagarre qu'il y a eu au début, là, pendant 77 km jusqu'à que je sorte avec Majka, je peux vous garantir que ça roulait plus vite que dans le final. Donc aujourd'hui, c'est presque le départ de la course qui était plus dur que la fin.
Plus la chaleur.
Ah ouais, là, m'en parlez pas. Je suis rouge comme une tomate. On fait comme tout le monde, hein. On prend du paracétamol avant le départ, comme quelqu'un qui va au travail qui a chaud, mais ça fait pas tout. On a beau s'arroser, quand il fait plus de 35 à l'ombre et qu'on est dans l'école, c'est super, super dur. Et puis il y a des organismes qui aiment bien la chaleur. Je fais pas forcément partie de ceux-là. Mais bon, faut bien s'y accommoder parce qu'elle va être encore là quelques jours.
Voilà, la réaction de Thomas Vauclair, forcément il fait un peu moins chaud en Vendée, tu sais, Christophe. Et c'est pas les températures d'ici. Je vais essayer de remonter la ligne pour essayer de retrouver Warren Barguil dans un instant.
Très bien, Warren Barguil qui a terminé avec
il a perdu 32 secondes.
Le groupe maillot, il a perdu 32 secondes.
Oui.
Ah ouais, ouais, 32 secondes. On vous donnera les classements. On n'a pas encore le classement général. Marc Madiot est en compagnie de Pierre-Yves Leroux, le manager.
Exactement,
de la FDJ.
Exactement, Marc derrière la ligne. Marc, c'est encore compliqué aujourd'hui. On a vu Morabito devant, Thibaut en difficulté.
Ouais, bah il a essayé d'aller dans le coup dans les 100 premiers kilomètres. On a entendu son nom à deux ou trois reprises dans les tentatives d'échapper. Donc bon, après, il n'y a plus grand-chose à espérer. Il faut retenter sa chance demain. On verra demain.
Il y a de la résignation un petit peu de votre côté.
Non, on essaie de faire les étapes. Là, on a couru pour être dans le coup, pour être dans l'échappée. On avait Morabito plus Démarre, donc c'est plutôt encourageant.
C'est pas le Tour de France que vous aviez imaginé.
Non, mais c'est une course de vélo et j'ai envie de dire, heureusement, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite ou qu'on l'espère. Sinon, ce serait trop simple et trop facile.
Donc, il y a de l'espoir encore et 10 jours à venir.
Tant qu'on a un de ça, on n'est jamais mort.
Merci, Marc. Je vous le disais, on va essayer de retrouver Warren Barguil un petit peu plus tôt, mais on fait des rencontres comme ça sur le parcours de temps en temps.
Très bien. Warren Barguil, on va le retrouver dans quelques instants. Il a donc pris un tout petit éclat. 32 secondes, arrivé 32 secondes derrière le groupe maillot jaune. On rappelle le classement de cette étape et ensuite on part à Moscou rapidement. Fred.
Victoire de Rafał Majka, polonais de l'équipe Tinkoff Saxo, 25 ans et demi, meilleur grimpeur du Tour 2014. Il s'impose en solo dans cette deuxième étape pyrénéenne via Aspin et Tourmalet, arrivé à Cotteret aujourd'hui. Il devance de plus d'une minute l'Irlandais Dan Martin, l'Allemand Buschmann, le Belge Serge Powels, Thomas Vauclair est cinquième, Julien Simon sixième. On parle là de membres de la grosse échappée du jour. Derrière, le groupe maillot jaune a terminé à plus de 6 minutes et Valverde n'a pris qu'une toute petite seconde à Froome.
Warren Barguil est au micro de Pierre-Yves Leroux.
Ça sera peut-être en anglais pour commencer, on va enchaîner en français peut-être dans quelques instants.
Les Bretons parlent grand breton.
Oui, effectivement, pour l'instant c'est en anglais, on va essayer d'enchaîner avec Warren Barguil dans un instant, qui est toujours blessé au coude, évidemment, le genou également bien râpé avec des pansements et quelle descente surtout aujourd'hui. On va essayer d'en savoir plus sur les risques pris. On écoute Warren Barguil dans un instant. Encore une question
Il reste 9e au classement général. Warren Barguil à 6,44, Bokeh Mollema est 10e à 7,05.
Et le fait qu'il réponde en anglais, Warren Barguil, ça veut dire qu'il est interrogé et qu'il intéresse les médias internationaux.
Exactement. Ah,
écoutez, il y a plusieurs caméras, 4-5 caméras, des micros, allez, une dizaine à peu près. Et il y a Georges Quirino même qui est là, je peux vous dire. Allez, en français, on écoute Warren Barguil tout de suite.
C'était un petit peu plus compliqué, vous êtes accroché, vous êtes revenu dans la descente.
Ouais, c'était même hier, c'était compliqué. Hier, j'avais encore l'adrénaline et aujourd'hui, l'adrénaline de la chute, je l'avais plus. Et ouais, j'ai vraiment pris un gros contre-coup aujourd'hui avec la chaleur, c'était pas facile. Mais je suis encore là, donc ça va.
Justement, et le moral est là, il y avait eu cette chute, vous l'avez dit, vous avez plutôt bien récupéré finalement. Vous êtes toujours bien présent, Warren.
Ouais, j'ai pas bien récupéré, je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, mais j'ai pas passé non plus de mauvaise nuit, mais sur le vélo. J'avais vraiment mal au dos après la chute d'hier et surtout au niveau du cou, puisque j'ai tapé la tête, vraiment la tête en premier et j'espère que demain ça ira mieux.
Warren, vous avez pris des...
Vous la sentez comment justement cette étape de demain?
Ouais, demain ça va être plus dur encore qu'aujourd'hui, donc on va voir comment ça va se passer. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est parti sur les chapeaux de roue et ça a jamais temporisé juste après le 60e kilomètre, quelque chose comme ça, juste avant le ravito, ça a temporisé. Mais avant, c'était vraiment la grosse bataille. Donc, pour récupérer d'une chute, c'était pas forcément la journée idéale.
Warren, vous avez
le plateau de Baye, justement, comment ça va se courir, comment ça va se passer sur votre...
Bah demain, ça va peut-être plus me convenir. Ce sera plus pentu que le Tourmalet. Et vraiment, dans les pentes raides, c'est là où je suis le mieux. Donc demain, j'espère être mieux dans le plateau de Baye.
Warren, vous avez pris beaucoup de risques dans cette descente. Vous avez failli croiser une vache. D'ailleurs, vous l'avez vu de près, je crois.
Non, j'ai pas pris de risque parce que quand on connaît la descente, on prend pas de risque. Je connaissais tous les virages, je savais où freiner. Ouais, c'est sûr, il y avait la vache. Et je l'ai regardée dans les yeux et je me suis dit, est-ce qu'elle va avancer ou pas? Puis au final, elle a pas avancé. Et j'allais pas m'arrêter non plus. Il y avait de la place sur le côté gauche et j'ai réussi à passer. Sans taper la vache.
À l'image, en tout cas, c'était impressionnant. Les voitures aussi, vous disiez, il faut que je rentre à tout prix pour pas perdre de temps.
Ouais, il fallait que je rentre à tout prix, mais je me suis pas non plus pressé. Je connaissais bien la descente. Je savais que dans le village de Barège, il y avait trois virages que je pouvais prendre assez vite parce que je les connaissais et que devant, ils allaient peut-être être impressionnés par les virages. Donc, je connaissais, c'est quasiment mon terrain d'entraînement ici. Hein. Je connais vraiment bien les Pyrénées. Et la descente, je la connaissais parfaitement.
Ouais, c'est tout. une course à handicap et vous êtes encore là, vous vous accrochez, vous en sortez.
Ouais, je me bats comme je peux, c'est sûr. Avec la chute, j'ai perdu quelques capacités physiques, mais j'essaie de me battre quand même avec les armes que j'ai. Non, pas surpris. Hein. J'ai toujours été un battant, j'ai jamais rien lâché sur les courses de vélo et ça continue comme ça. Hein. On change pas du jour au lendemain, je suis pas lâché comme ça.
Voilà,
c'est ça, tout à fait.
Voilà, Warren Barguil qui a pris du temps hein, pour ouais. nous répondre.
Très sympa.
Ici, à l'arrivée, effectivement, les réactions qui se poursuivent derrière la ligne, Christophe.
Très bien, il a regardé la vache dans les yeux et attendant qu'elle avance ou qu'elle recule, finalement, elle est restée en place. Et il a réussi à la frôler. On part tout de suite à Moscou, les championnats du monde d'escrime.
RMC France Olympique.
Avec une nouvelle bonne nouvelle. Voilà, ça s'est dit, Rodolphe, puisqu'on va avoir une deuxième médaille dans le camp français tout à l'heure.
À l'épée individuelle masculine, alors c'était attendu puisque les Français ont trusté les podiums toute la saison en Coupe du Monde. Gauthier Grumier, le numéro 1 mondial, sacré champion d'Europe au mois de juin dernier, est en demi-finale à l'issue d'un quart de finale extrêmement serré, tactique et nerveusement ça a été très dur pour le coach Hugo Brie puisque le Français a battu le champion olympique en titre 9 touches à 8, mais à l'issue de la prolongation de la mort subite, ils étaient à égalité 8 touches partout. Gauthier Grumier a réussi la touche de la victoire, il est donc en demi-finale où il affrontera tout à l'heure un invité surprise à ce niveau-là, le Danois Jørgensen.
Merci Rodolphe, on suivra évidemment cette demi-finale avec toi un petit peu plus tard dans la soirée, donc en direct de Cotteret au terme de la 11e étape du Tour de France. On va rappeler le classement de l'étape, Fred, le classement général qui lui ne bouge pas beaucoup hein.
Victoire ici à Cotteret pour ce deuxième volet de la trilogie pyrénéenne de Rafał Majka, le polonais en solo, lui qui s'est extrait de l'échappée du jour dans l'ascension du Tourmalet. Il a géré les 50 derniers kilomètres et termine avec une minute d'avance sur son dauphin de l'étape, Dan Martin, l'Irlandais, troisième le champion d'Allemagne Eric Buschmann, quatrième un Belge Powels, cinquième et sixième des Français Thomas Vauclair et Julien Simon. Le groupe maillot jaune en termine avec près de 7 minutes de retard. Valverde prend une petite seconde à Froome et Barguil perd 32 secondes. Nibali a également craqué, Nibali qui perd sa place dans le top 10 au classement général. Christopher Froome est toujours largement en tête avec 2,52 d'avance sur Van Garderen, 3 minutes 09 sur Quintana. Valverde est quatrième à 4 minutes et Tony Galopin qui a attaqué dans les 3 derniers kilomètres est toujours 7e à 4 minutes 33. Warren Barguil conserve sa place de 9e à plus de 6 minutes 40 désormais.
Voilà, alors sur le hashtag AMC Live, on comprend que les Sky aient roulé derrière Galopin parce qu'il y a la place de Geraint Thomas à protéger.
Hein. Ah,
il est 5e au général à 4,03. Et Galopin était à 4,33, donc il y avait 30 secondes d'écart entre les deux.
Et on va se souvenir également que Christopher Froome est passé en tête du groupe maillot jaune au Tourmalet, là où il y avait encore des points à prendre, et il a un peu tassé Pierre Roland qui faisait non de la tête alors que lui espérait prendre des points pour le classement de la montagne. Je pense que Pierre Roland n'est pas très content non plus de l'attitude des Sky.
Ah, il les aime, on les aime ces Sky, ils sont sympas, c'est des gens sympas. Heureusement que Dave Bresford nous a invité à prendre le thé dans son camion, on va tous y aller ce soir. Tiens, allez, on va se quitter quelques instants. Donc victoire de Majka ici, le coéquipier d'Alberto Contador. Contador qui n'a pas attaqué aujourd'hui, tout comme Quintana, tout comme Nibali qui a même terminé dans les voitures directeurs sportifs avec quelques secondes de retard supplémentaire. Bref, ça va pas fort pour les anciens pseudo-fantastiques. Ça va pas fort non plus pour les anciens outsiders français de ce Tour de France. Heureusement, on a Barguil, heureusement on a Contador et heureusement on a encore une belle étape demain. On l'espère en tous les cas. 17h25, on se retrouve dans quelques instants sur la ligne d'arrivée ici de cette 11e étape du Tour de France à Cotteret.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
En direct de Cotteret ce soir, au terme de la 11e étape du Tour de France, Pierre-Yves Leroux est aux côtés d'Alexis Biermoz, le coureur de la formation AG2R.
Allez, on écoute Alexis tout de suite. Alexis, vous êtes encore posé sur le vélo, ça a été compliqué aujourd'hui, la chaleur, l'école.
Ouais, forcément. On a souffert de la chaleur, l'école normalement c'est pas un souci, c'est notre terrain de jeu, donc voilà, se faire lâcher sur notre terrain de jeu, forcément c'est rude. On n'a pas trop d'explications, on a pourtant travaillé dur pour être en forme sur ce Tour de France, surtout en montagne. Donc voilà, après on a pas mal de pépins physiques aussi, la première semaine a été usante, mais bon, on va pas chercher d'excuses et on va essayer de se battre jusqu'au bout pour relever la tête.
Il y a 3 semaines avec Romain, vous étiez dans les Pyrénées pour reconnaître ces cols. Qu'est-ce qui peut changer comme ça en 3 semaines?
Je sais pas. En tout cas, on a fait effectivement la reconnaissance de la Pierre Saint-Martin et du plateau de baie. Et voilà, donc l'étape de demain. Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais bon, de toute manière, comme je vous l'ai dit, on va pas baisser les bras.
Demain, plateau de baie. Faut être devant peut-être tôt dans la journée.
Ouais, comme aujourd'hui, on a essayé de prendre l'échappée, on a beaucoup bagarré pendant 80 km, on a attaqué sans arrêt, on a pu plusieurs fois les échapper, mais le peloton n'a jamais voulu nous laisser partir, la Sky s'est mise en route, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a vraiment bagarré. Plusieurs fois j'ai cru qu'on était parti, et le peloton n'a jamais baissé les bras, et voilà, on se retrouve à manquer après l'échappée de devant, quoi.
Merci beaucoup Alexis Vuillermoz, qui est, je vous le dis, toujours pas posé, toujours sur son vélo, alors qu'il est arrivé depuis quelques minutes maintenant, et qu'il va pouvoir s'entourer d'une serviette, pouvoir se sécher un petit peu et redescendre ensuite vers l'hôtel.
Il y a du monde qui va arriver dans quelques instants, Pierre-Yves, puisque une partie du groupe Eto est en train d'en terminer avec 21 minutes de retard. Qui trouve-t-on dans ce groupe, Fred,
comme ça, à la volée, Ryder et Jeudal, Mathieu Ladagnus, Arnaud Démare, ouais. Thibaut Pinot a fait groupe Eto, on l'annonçait, Jean-Christophe Perrault, juste devant Thibaut Pinot. On termine là aussi à 21 minutes du vainqueur, c'est-à-dire à un quart d'heure du groupe Maillot Jaune, au milieu d'anonymes qui s'appellent Caruso, Valls, on aperçoit Nathan Haas, voilà des noms qui ne vous disent absolument rien, mais voilà avec qui naviguent Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot aujourd'hui.
Ça doit être terrible, Lucho, quand on est un champion annoncé du Tour de France, qu'on a terminé sur le podium l'année précédente, et bien de se retrouver dans le groupe Eto, là, dès la deuxième étape de montagne. Pour le moral, ça doit être...
C'est terrible, surtout que le tour va être très long pour Thibaut Pinot. Maintenant, je pense que l'objectif que Thibaut Pinot doit avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois, il faut qu'il termine le Tour de France. Je veux dire, c'est très important pour lui de terminer le Tour de France, parce que ça va lui permettre d'avoir un acquis aussi et de pouvoir préparer en quelque sorte un petit peu la fin de saison, de récupérer un petit peu après le Tour et de se cibler d'autres objectifs sur la suite de la saison, parce que la saison n'est pas terminée et il ne faut pas se concentrer que sur le Tour de France non plus. Il y a une saison à terminer, il y a des objectifs et il y a des courses importantes, donc il faut les préparer sur le Tour de France maintenant, et pourquoi pas se prendre un objectif sur le Tour d'ici la fin. Peut-être qu'il va aller de mieux en mieux, donc il peut profiter.
Oui, c'est ce qu'il nous disait hier. Voilà.
Il peut profiter,
dans les Pyrénées, on verra dans les Alpes.
Voilà, il peut profiter un petit peu maintenant du retard très important qu'il a sur Froome et les leaders, de pouvoir prendre une échappée qui parte de loin et de pouvoir faire un numéro et pourquoi pas remporter une étape dans les Alpes.
Est-ce que Luc, parce qu'on se rappelle qu'il y a 2 ans, Thibaut Pinot avait quitté le Tour de France après avoir un peu craqué dans la tête, il souffrait d'une angine aussi, mais peut-être que c'était davantage psychosomatique. Est-ce que toi, coureur, est-ce que tu as regretté un jour d'avoir quitté le Tour de France, d'avoir abandonné, ou une autre course? Est-ce que tu t'en es mordu, ce que je pense?
Oui, c'est sûr. Bon, moi, je me rappelle en 92, j'ai pas abandonné le Tour de France. J'ai été éliminé dans l'Alpe d'Huez. J'étais hors délai.
Exact.
Mais j'étais jusqu'au bout de. J'avais été champion de France. J'avais vraiment fait des très très belles courses. J'avais fait des très beaux résultats avant. J'avais gagné pas mal de courses avant le Tour de France. J'en avais peut-être un petit peu trop fait à mon goût avant le Tour de France. J'avais été champion de France une semaine avant et je me suis complètement effondré sur le Tour de France, surtout avec le maillot bleu-blanc-rouge. J'ai l'étape de l'Alpe d'Huez. Je me suis fait larguer au pied. Je me rappelle plus. C'était le départ. Au départ,
Thibaut Pinot justement, est au micro de Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée.
Effectivement, Thibaut qui vient d'arriver, on va entendre sa réaction tout de suite. Déception évidemment, on l'imagine.
Ouais, voilà, j'ai mis le peu de force que j'avais en début d'étape pour essayer de prendre l'échappée. Voilà, ça c'est parti. J'étais dans le coup d'avant que ça sorte, et puis voilà, mais de toute façon j'ai pas de regret. Quand je vois la suite de l'étape, j'avais pas de jambes encore aujourd'hui, quoi.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand vous basculez comme ça à plus de 10 minutes au Tourmalet, que vous êtes avec quasiment dans le groupe Eto, alors que normalement vous faites jeu égal avec les autres, Froome et les autres qui sont à l'avant? Qu'est-ce qui se passe dans la tête dans ces moments-là?
On essaye de comprendre pourquoi ça marche pas, pourquoi j'arrive pas à développer, à être à mon niveau normal, quoi. Donc je suis très loin de mon niveau, j'arrive pas à monter dans les tours, donc voilà, je cherche, j'essaie de comprendre, et il n'y a pas de solution, je sais pas.
Vous avez une explication?
Non, je n'en ai pas. Donc, pourquoi pas faire un bilan sanguin pour voir s'il y a des carences ou des choses comme ça. Mais je vois pas pourquoi je suis dans cet état, quoi. Bien sûr que j'y crois, sinon on serait pas là. Mais voilà, la tête des fois ça suffit pas non plus. Donc j'ai pas de jambe, j'ai beau avoir la meilleure tête, le meilleur mental possible. Si la jambe, si je peux pas être à plus de 300 watts, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Voilà la réaction de Thibaut Pinot qui redescend immédiatement. Vous l'entendez, hein, beaucoup de déception, de questions aussi dans le discours de Thibaut Pinot.
Cyril, je ne sais pas si Cyril est encore dans la tribune.
Mais bien sûr, je n'ai pas annoncé ma retraite.
Oui, ça c'est une interview pour Cyril. Hein. Il y a beaucoup de choses à tirer des propos de Thibaut Pinot.
Ouais, Cyril, il se pose des questions évidemment, il a pas les jambes, il veut peut-être faire une analyse sanguine pour voir s'il y a des carences. Comment on peut passer d'une telle forme il y a quelques semaines au Tour de Suisse à arriver dans le groupe Eto?
Ah, c'est bon, il faut aller chercher au niveau du mental, il faut pas par précaution faire une prise de sang, oui, ça me paraît évident. Il faut essayer dans un premier temps d'éliminer ce que l'on peut éliminer. Donc la prise de sang fait partie des possibilités qu'on a de trouver une explication. Mais s'il n'y a rien dans la prise de sang, le problème il est ailleurs, et il est sur le mental, la perte de confiance, l'objectif qui s'en va, et d'un seul coup, bah vous disjonctez complètement, et le fait de ne plus avoir de force, c'est une chose tout à fait normale à partir du moment où vous n'y croyez plus.
C'est uniquement dans la tête. Il peut pas y avoir de.
J'ai pas dit que c'était uniquement dans la tête. Non. Je dis qu'il faut essayer de faire une prise de sang pour voir s'il n'y a pas autre chose. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut analyser. Mais, la situation qu'il connaît, beaucoup d'autres l'ont connue dans les mêmes circonstances, et la prise de sang était normale.
Oui, parce que chez les coureurs cyclistes, comme chez n'importe quel être humain, il y a une faculté à se surpasser mentalement et qui joue sur le physique. On a des facultés de résilience qu'on ne soupçonne parfois pas. Et il semble que Thibaut Pinot, quand il est sur les rails, quand il est en ligne, tout va bien et il est capable de faire des choses exceptionnelles. Mais là, ça fait deux fois, on ne lui jette pas la pierre, loin de là. Il a expliqué qu'il avait beaucoup donné en début d'étape pour partir dans le coup, comme Romain Bardet.
Il s'accroche. Romain Bardet a terminé aujourd'hui, alors qu'on aurait pu penser à un moment donné qu'il allait abandonner. Mais il s'accroche, mais ils peuvent rien faire.
Mais il y a des coureurs qui sont quand même capables d'aller au-delà de la souffrance, qui ont une faculté de résilience, ce dont on parlait à l'instant, plus élevée que d'autres. Thibaut Pinot a un moteur d'enfer, c'est un super coureur. Là, il a peut-être un peu lâché dans la tête, mais son tour n'est pas fini. C'est bien qu'il continue de tenter comme il l'a fait ce matin. S'il l'a fait ce matin, il le refera dans les Alpes.
Cyril, on peut récupérer comme ça, être à la rue dans les Pyrénées et être de nouveau de retour dans les grands coureurs du Tour de France dans quelques jours dans les Alpes où le laps de temps est trop.
Oui, c'est possible. Mais bon, il faut bien écouter son discours, écouter entre les mots, écouter le ton qu'il utilise. Pour l'instant, il ne part pas vers une remotivation. Il faut absolument qu'il se remette en cause. Le tour.
Il voudrait comprendre déjà ce qui lui arrive et ensuite peut-être
comprendre. Oui, bon, on l'a compris. Ce qui lui arrive, c'est qu'il est plus dans le coup pour le général et qu'à partir de ce moment-là, il y a tout qui s'enclenche dans le négatif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il passe deux ou trois jours et qu'il soit dans l'autobus, hein, qu'il soit avec Cavendish et Coquart, mais surtout qu'il bouge plus et qu'il se remette en cause lui et qu'il retrouve dans son intérieur à lui, et ça viendra pas obligatoirement de l'extérieur, c'est lui qui doit trouver les forces en lui-même. Et de toute façon, s'il les retrouve en lui-même, il trouvera des forces extérieures, mais c'est pas dans l'autre sens que ça se passe. C'est lui qui peut se sortir, et se sortir seul, et on l'aidera.
Et pour ceux qui n'ont pas connu Cyril Guimard, coureur et directeur sportif, on a là la quintessence de la philosophie Guimard. on cherche parfois quelque chose là où il n'y a absolument rien à trouver. Il faut savoir accepter et se battre, accepter les aléas de la vie et se remotiver. C'est de l'auto-persuasion qui est parfois salvatrice.
Cyril, demain, la recette du Drin, j'aimerais bien que tu nous la fasses justement sur Thibaut Pinot, de savoir comment tu arriverais à le motiver.
Je suis pas d'accord, enfin je ne suis pas sûr d'accepter parce que
t'as plus rien à lui dire à Thibaut, quoi.
Les mots que j'utiliserais iraient peut-être trop loin dans l'intime.
Ah bon?
Eh oui, c'est ça. Quand je vous parle de la philosophie Guimard, on est là dans c'est pas de la manipulation du cerveau, loin de là, mais on rentre vraiment dans l'intime, c'est exactement ça, et on fait appel à des ressources qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas philosophiques, mais qui sont de l'ordre de l'émotionnel, et vraiment on va toucher des morceaux du cervelet là que je ne maîtrise pas du tout, mais que Cyril a bien compris le fonctionnement depuis des décennies maintenant.
Très bien, il est quelle heure? Il est 17h39 sur RMC l'Intégral Tour. On va s'arrêter quelques instants sur le bord de la route. Ah bah oui, l'étape est terminée, mais nous on est encore là jusqu'à 18h. Dans quelques minutes, le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard viendra nous confier ses impressions puisqu'il a suivi l'étape. Et puis évidemment, on continue de débriefer avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Beaucoup de réactions. Et puis à 19h, vous savez, les débats.
Fred, on rappelle que Rafał Majka a remporté cette deuxième étape pyrénéenne en solo ici à Coutray via l'enchaînement Aspin-Tourmalet. Il devance d'une minute un ancien membre de l'échappée, Dan Martin. L'allemand Buschmann est troisième. Thomas Vauclair et Julien Simon font 5 et 6. Et puis derrière, le groupe maillot jaune arrive presque groupé. Seul Barguil a lâché 30 secondes et Nibali a un peu craqué. Nibali qui sort du top 10, sinon classement général inchangé.
L'intégral tour revient dans quelques instants jusqu'à 18h. Nous sommes ensemble pour le direct et ensuite ça continue évidemment jusqu'à 21h. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
En direct de Cotteray, dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, à l'issue de la 11e étape du Tour de France. On va retrouver Pierre-Yves Leroux dans quelques instants, qui se trouve désormais au pied du protocole, au pied du podium, où on remet évidemment les maillots distinctifs. On vous rappelle que Chris Froome a revêtu un nouveau maillot jaune ce soir, que Nairo Quintana, lui, a revêtu à nouveau le maillot blanc de meilleur jeune, et que le maillot à poids est également sur les épaules de Chris Froome, qui ne le portera pas demain, puisqu'il ne peut pas porter deux maillots à la fois, il fait beaucoup trop chaud et puis le règlement l'interdit. C'est son coéquipier Richie Porte qui devrait le porter à nouveau demain. Quintana en blanc et au micro de Pierre-Yves Leroux.
Allez, Nairo Quintana qui va venir. Ah bah finalement il s'est arrêté avec Robbie McEwen pour une petite question, donc avec mes confrères espagnols on va patienter encore un petit peu. Il y a Peter Sagan qui est pas très loin non plus. Ça promet d'ailleurs une belle bagarre pour le maillot vert.
Oh oui.
Petite info, c'est l'anniversaire d'André Greipel demain et il y a un sprint en tout début d'étape, donc il pourrait peut-être se faire un petit cadeau d'anniversaire s'il réussit à gagner ce sprint. Faudra calculer sur le nombre de points. Il doit avoir 7 points d'écart entre les deux, je pense. Fred, tu vas pouvoir sortir la calculette tout à l'heure.
Il y a 7 points d'écart entre Sagan et Greipel, effectivement.
Ouais, donc il faudra regarder au niveau des points gagnés demain dans ce premier sprint. Nairo Quintana qui est assis, qui prend son temps tranquillement à l'ombre d'un petit parapluie.
Répond en anglais, nos confrères internationaux ou pas?
Alors je vais te dire ça dans un instant, Fred. Oui, exactement, il a un traducteur qui lui traduit la question en anglais et derrière je pense qu'il répond en espagnol. Ouais, il répond en espagnol.
D'accord.
Très bien. Dans 30 secondes, à mon avis.
Dans 30 secondes, ben on va l'accueillir dans un instant. Et puis Chris Froome également, qui ne devrait pas tarder le maillot jaune du Tour de France, pour répondre aux questions de Pierre-Yves. Oui, le maillot vert qui a changé une nouvelle fois d'épaule ce soir, Fred, avec le mano à mano entre Greipel et Sagan. Il s'accroche Greipel quand même, mais enfin là, il n'est pas sur son terrain de prédilection, évidemment, dans la montagne.
De moins en moins, effectivement, alors que Peter Sagan est beaucoup plus passe-partout.
Quintana au micro de Pierre-Yves.
Nairo Quintana con écoute.
Ya nos atiende. Nairo, hoy no había terreno para plantear gran batalla.
Aujourd'hui, ¿no? C'était pas un terrain pour attaquer, hein.
Non, ha salido un poco la carrera rápida.
Non, c'est monté assez vite. La course était assez rapide.
La fuga del día de ayer también ya pasa factura.
La journée d'hier qui a pesé dans les jambes également.
Y bueno, Astana ha tensado en el Tourmalet bastante.
Astana ha acelerado en el Tourmalet.
Que no ha podido hacer el daño que que podían ellos esperar o incluso nosotros.
Et voilà, le rythme était, et ya el était trop élevé pour espérer attaquer.
Rápido, o sea que no había
dans le final, c'était pareil, le rythme était assez élevé.
De hacer nada. Pero,
il y avait,
bueno,
il y avait la
que,
possibilité de rien faire.
Estas etapas han sido duras y el cansancio se acumula en cada uno de nosotros.
Cette journée était difficile, et demain ce sera difficile aussi. Il était peut-être temps aujourd'hui de se reposer un peu.
Esperaremos sobre la marcha y si hay la buena sensación.
Demain, on va voir comment ça va. Si j'ai de bonnes sensations, il sera peut-être temps d'attaquer.
Ha tensado mucho, como dices, en el Tourmalet, y luego al final ha acabado cediendo.
Et un mot sur la défaillance de Nibali qui a fait rouler dans le Tourmalet et qui craque dans le final.
Y han hecho daño a algunos otros corredores. Pienso que también más adelante seguirán intentando porque son corredores que les gusta.
Ouais, il a eu le mérite d'essayer dans l'ascension du Tourmalet. Il a payé dans le final, mais je suis quasiment sûr qu'il va retenter le coup, qu'il va réattaquer parce que c'est un vrai coureur au tempérament offensif.
Voilà la réaction de Nairo Quintana alors que se rapproche Dan Martin, le combatif du jour, et puis Chris Froome qui n'est pas très loin. Oui, l'accent merveilleux de Dan Martin qui est le neveu, hein, c'est bien ça,
de Stéphane Roche. Oui.
Voilà, Dan Martin qui a terminé deuxième de l'étape, mais combatif de l'étape puisqu'il a pris le prix aujourd'hui, Dan Martin, que l'on voyait bien parce qu'il a fait quand même un gros boulot pour revenir sur l'échappée. Il y avait 3 minutes d'écart entre l'échappée et lui lorsqu'il est sorti du peloton.
Dans la vallée, avant Aspin.
Il a fait le sprint au sommet, au passage d'Aspin. Mmh. Et ensuite, il a un peu craqué dans le Tourmalet. Ça se paye évidemment, ses efforts. Hein. Lui, quand on revient comme ça tout seul pour combler le retard sur un groupe, derrière forcément paye l'addition.
Ah ben tout à fait, de toute façon les étapes de montagne ça pardonne pas, le moindre petit écart, la moindre erreur, quand on veut revenir trop vite sur un groupe et quand on se met trop longtemps dans le rouge, ben, automatiquement même si on revient on le paye automatiquement après. C'est pour ça que quand on disait avec Cyril dans le Tourmalet que Barguil devait maintenir toujours son niveau et ne pas aller au-delà gérer de la zone rouge pour éviter d'exploser après, ce qu'il a très très bien fait d'ailleurs puisqu'il bascule pas très loin, il bascule à 1 minute, il connaissait parfaitement bien la descente et là il s'est employé à 100% de ses possibilités dans la descente, il est revenu sur le groupe Froome et voilà, donc il faut savoir gérer ses efforts dans une étape de montagne et ne pas trop vouloir en faire pour éviter après d'exploser complètement et de prendre trop de temps.
Très bien. Fred, on rappelle les résultats donc de l'étape Cyril est descendu dans le camion. On attend le secrétaire d'État au sport qui ne devrait pas tarder à nous rendre visite dans le petit camion puisque le protocole est terminé. Fred, le rappel des résultats de cette 11e étape du Tour de France.
Oui, c'était la deuxième des 3 étapes pyrénéennes entre Pau et Cauterets dans les Hautes-Pyrénées. Par-delà, l'enchaînement Col d'Aspin, Col du Tourmalet qui était le toit du Tour de France. Victoire de Rafał Majka, le Polonais. Et pas bonjour, de changement Dan. Au classement général.
Je vais faire en français ? Oui.
Christopher Froome, tout de suite.
Non, Dan Martin. Non. Voilà, Dan Martin qui est avec nous. Dan, c'était compliqué hier. Aujourd'hui, vous vous sentiez mieux ?
Ouais, pas trop au début, quoi. On voulait être dans l'échappée dès le début, mais c'est pour ça que l'équipe, ils ont roulé, ils ont mis en route pour taper le 4 coureurs qui étaient devant. Puis, ouais, j'ai tenté avec ton avocat dans la troisième catégorie, mais ouais, ça n'allait pas, quoi. Après ça, j'ai eu vraiment mal aux jambes pendant 25-30 km. Je ne pouvais pas suivre quand le bon échappé, ils sont partis. Alors, ouais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que c'était le bon moment d'attaquer quand l'échappé, ils ont encore 4 minutes ou quelque chose. Et puis, ouais, je savais que ça allait être possible à rentrer dans la Côte d'Aspin. Alors, c'était ça l'objectif. Et, heureusement, ils ont pas roulé trop vite devant et je pouvais faire.
On a le sentiment qu'il y a beaucoup de coureurs qui souffrent terriblement en ce début de montagne.
Ouais, je pense que c'est à cause de... Voilà, on a fait 10 jours sur le plat et puis... ouais, voilà, 5 jours avant la course en payback. Puis, ouais, personne n'a roulé dans les montagnes depuis quasiment 3 semaines. Ça, avec les chaleurs, c'est un peu un choc au corps. Je pense que c'est pour ça, et elle, c'était un résultat bizarre avec le mec qui perd beaucoup de temps, qui normalement on va pas perdre. Je pense demain, bah, peut-être même pas demain, pour les Alpes, tu vas voir les résultats plus égal. Mais je pense que ça risque aujourd'hui, demain d'être encore une étape qui s'explose le peloton.
Merci beaucoup, Dan. Félicitations aux combatifs du jour, Dan Martin. Et je regarde, oui, Chris Froome n'est pas très loin, mais il va venir. Je demande les infos. Il va venir. Il nous reste combien de temps, Christophe?
Il nous reste 3 minutes.
Trois minutes. Eh bien, je pense que ça peut être possible. Je fais signe aux organisateurs qu'il nous reste très peu de temps. Ils vont essayer de nous amener Chris Froome avant la fin du direct. Je l'aperçois, le maillot jaune, qui n'est pas très loin. Lui aussi protégé du soleil. Et on va essayer de savoir un peu comment il a vécu cette étape aujourd'hui, qui était plus calme que celle d'hier. Évidemment, je vous fais signe dans un instant.
Voilà, Christopher Froome qui va donc arriver au protocole, arriver au protocole. Ben oui, parce que passer devant Pierre-Yves Leroux, c'est comme recevoir un maillot jaune. Hein. Lorsque vous avez le privilège d'être interrogé par notre barde, c'est quand même pas rien. Hein.
Au-dessus de l'interview avec Pierre-Yves Leroux, il y a être anobli par la reine d'Angleterre.
Voilà,
pour vous citer.
Donc, prochaine étape, ce sera ça. Rafał Majka remporte donc cette 11e étape, Fred. Tu as 10 secondes, peut-être, ou 5.
En solo, Rafał Majka, qui avait déjà remporté 2 étapes du Tour de France l'an passé à Risoul et au Plat d'Adet. Et cette fois, il a remis ça au lendemain de la défaillance de son leader Contador chez Tinkoff Saxo. Le Polonais de 25 ans et demi, Rafał Majka, meilleur grimpeur du Tour l'an passé, s'impose en solo à Cotteret avec 1 minute d'avance sur Dan Martin, l'Irlandais. Bushman est 3e. Les Français Thomas Vauclair et Julien Simon, membres de la grosse échappée du jour, terminent 5e et 6e. Pas de classement, pas de changement au classement général puisque le groupe maillot jaune a terminé relativement groupé. Seul Barguil a lâché 32 secondes et Vincenzo Nibali a craqué dans la dernière côte en direction de Cotteret. Pas de gros changements donc au général. Nibali sort du top 10 au profit de Bauke Mollema, le Hollandais. Warren Barguil reste 9e. Tony Galopin reste 7e. On rappelle la défaillance également des Français Romain Bardet, Thibaut Pinot et Jean-Christophe Ferraud qui terminent presque groupé tôt aujourd'hui.
Et Chris Froome qui arrive au micro de Pierre-Yves.
Bonjour Chris, il faut boire de l'eau hein, aujourd'hui, il fait très chaud, mais ça a été plus calme qu'hier quand même.
Plus calme, mais c'était dur quand même. Hein. C'était une étape vraiment dure aujourd'hui, avec la chaleur, plus de 35 degrés. Tout le monde s'est fatigué. Oh, j'espère que tout le monde s'est fatigué après l'étape aujourd'hui.
L'étape de demain vous fait peur un peu, il peut y avoir beaucoup d'attaques, c'est encore un tournant important.
Pas peur, mais oui, c'est une étape dure demain. C'est une étape très dure demain. Et, avec l'arrivée à Plateau de Baie, on peut voir une course plus ou moins comme hier. Une course vraiment pour le classement général.
Qui peut encore vous inquiéter?
C'est difficile à dire. Il y a beaucoup de monde qui sont forts. Quintana, Valverde, TJ Van Garderen, Tony Galopin. Il marche bien. Mais on verra.
Et vous êtes trop fort.
Pas trop.
Plus de sourire chez Chris Froome ce soir, puisqu'il n'y a pas eu trop d'écart. Voilà Chris Froome qui répond derrière le protocole. On était bien, Christophe, dans le tempo là.
Exactement, parfait. Il nous reste 1 seconde. Voilà, c'est terminé. Merci messieurs. On va tout de suite partir aux courses. Retrouver Laurent Guédard pour le récap course de la journée. Salut Laurent.
Salut Christophe, le quintet de cet après-midi à Lisieux a été remporté par le 18 Very Well Jet, la 2e place pour le 14 Ultra Dédou, la 3e pour le 3 Vénitio Pomereux, c'est le 6 Chao Chaman qui prend la 4e place devant le numéro 5 Tiss White. 18, 14, 3, 6 et 5. Le quintet rapporte 5 670 €. Je vous rappelle que le numéro 15, Rockwin, était non partant. Demain, direction Compiègne avec les galopeurs. Ils seront 16 à s'élancer pour un voyage de 2000 mètres sur cette piste très technique. Cédric Cueilletta de Génie Course m'a rejoint. Bonjour Cédric, quelle est la bonne base pour ce quintet?
Bonsoir à tous, j'aime beaucoup le numéro 6 Zambezo, très confirmé dans ce genre de tournoi, un cheval régulier, il mériterait de trouver son jour bientôt, j'espère que ce sera dès ce jeudi sur l'hippodrome de Compiègne.
Alors moi je vous conseille tout d'abord le 16 Adouane qui a manifesté un net regain de forme lors de sa dernière sortie, une deuxième place à Strasbourg et que je trouve de mieux en mieux traité au poids pour son retour dans les handicaps, et j'aime beaucoup également le 14 Gentleman qui vient de bien courir à Saint-Cloud, qui devrait normalement apprécier l'allongement de la distance, et je vous rappelle que d'autres informations des paris sont disponibles sur rmcsport.fr.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et je vais passer le relais maintenant à Virginie Fulpin, en pleine forme, notre maillot à poids du Tour de France. Virginie, tu as conservé ton maillot aujourd'hui?
Bah, je suis pas sûre, hein. J'avais joué Richie Porte, j'avoue que je m'étais un petit peu plantée. Mais bon, on va voir, on fera les calculs tout à l'heure avec Benji. Salut Christophe, à tout à l'heure, 19h. Cyril Guimard, lui, ne part pas bien loin, puisqu'il sera avec moi à 18h15 pour un petit condensé pyrénéen de cette 11e étape. Des Pyrénées aux Alpes, Tignes, c'est là que les joueurs du 15 de France sont arrivés aujourd'hui, toujours pour préparer la Coupe du Monde. On ira aussi à Moscou vivre en direct les championnats du monde d'escrime. Gauthier Grumier, sûr d'avoir une médaille, on va vivre sa demi-finale ensemble avec Rodolphe Massé. Et puis on ira également voir Nicolas Mahut au Queens avant le quart de finale de Coupe Davis, Grande-Bretagne-France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.